Vous écoutez
RMC.
Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialoux, bonjour.
Bonjour Jean-Chef.
Merci d'être avec nous. Chef du service des maladies infectieuses et tropicales, l'hôpital Tenon à Paris, vice-président de la Société française de lutte contre le sida. Gilles Pialoux, 91 000 personnes français infectées par le virus ces dernières 24 heures. L'épidémie est en pleine accélération. Comme prévu, plus de 100 000 cas entre Noël par jour, entre Noël et jour de l'an, disait le ministre de la Santé avant-hier ici même. Vous n'êtes pas surpris. Omicron a pris le dessus, ça y est.
C'est en train. Les chiffres sont probablement sous-estimés, parce que comme vous le savez, la France séquence beaucoup moins que le Danemark ou l'Angleterre. Au Danemark, par exemple, il séquence à peu près la moitié des malades. Mais enfin, bon, il y a un effort de fait, puis il y a du criblage surtout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important, que les gens symptomatiques ne fassent pas un test antigène, parce qu'il faut justement cribler le virus, il faut avoir un test PCR. Hier, dans mon groupe hospitalier, au laboratoire de virologie de Trousseau, ils ont reçu 500 prélèvements, beaucoup de gens du personnel aussi, parce que c'est une période de fête. Oui. Et on était, sur les positifs, on était à 80% d'Omicron, donc on y est, quoi. On ne va pas compter.
On va développer Omicron, qu'est-ce qu'Omicron, ce variant est dangereux, moins dangereux, enfin on va développer tout cela, parce que on a besoin de savoir, on a toujours besoin de savoir, pour que tout soit clair. On va parler aussi...
Surtout que c'est complexe.
Oui, c'est complexe, on va parler aussi du risque à la fois sociétal, économique, du mois de janvier. Et si la France était à l'arrêt en janvier, on va en parler. Mais je voudrais commencer avec les restrictions. Les restrictions se multiplient en Europe. Je regardais quelques exemples. Couvre-feu en Catalogne, confinement aux Pays-Bas, passe vaccinal déjà obligatoire en Suède, obligation de porter le masque à l'extérieur en Italie.
Portugal aussi.
Et Portugal aussi. Est-ce qu'on devrait être obligé de porter un masque en France?
Contrairement à mes habitudes, je ne sais pas à moi de répondre à cette question-là, parce que c'est une question qui est que politique.
Elle n'est que politique.
Le choix politique qui a été fait, c'est de dire on attend de voir et on prendra des mesures.
C'est un pari.
Oui, c'est un pari de plus. Et puis c'est toujours ce qui a drainé les choix politiques. Vous avez vu que c'est quand même pas ce qu'a demandé le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique a réclamé des mesures drastiques sans les préciser totalement. Oui. Notamment parce qu'il y a un point important. On aurait voulu régler le problème de Delta avant de se payer Omicron en pleine face, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Donc là, on va avoir un effet double lame, double vague, qui va être très compliqué à gérer, même si on en parlera, Omicron peut-être moins pathogène. Mais donc, on n'a pas réglé le problème de Delta, donc qui continue à circuler, et juste dessus, sur cette vague Delta,
Omicron
vient se fixer la vague Omicron. Mais sur les mesures coercitives, il faut être clair, très vite, je veux dire, en janvier, ce sera trop tard. Voilà, donc c'est un choix de société. C'est un choix de société. Je dis en janvier, ce sera trop tard parce que Omicron, ça.
Oui, ça ne servira plus à rien d'instaurer des couvre-feux, des limites de restriction de circulation, ou un confinement au mois de janvier.
Et puis il y a aussi l'effet temps, c'est-à-dire que le rapport au temps, vous rappelez le président de la République, il disait c'est le virus qui met du temps, sauf que l'unité de temps a changé. C'est-à-dire que le temps de doublement d'Omicron, il est de 3 jours. Donc vous comprenez bien que si vous prenez une mesure, vous courez derrière.
Donc fini, les mesures...
Je n'ai pas dit que c'est fini, il y a vraiment un point central qui va être la fin de la semaine, le 31.
Le 31. Alors, Omicron, regardons Omicron. Est-ce que, donc Omicron aura remplacé Delta très vite, totalement remplacé Delta très vite, dès les premiers jours de janvier, j'imagine. Pic à prévoir, selon tous ceux qui font des prévisions, vers la mi-janvier, fin janvier.
Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par pic. Est-ce que vous parlez du pic de nombre de cas ?
Du nombre de cas,
oui. De cas, oui, c'est possible, ça. Alors, évidemment, il y a une note optimiste. Enfin, il y a plusieurs notes optimistes, mais il y a une note optimiste qui est de voir la relative décroissance.
Voilà.
Ça décélère vite dans une population qui est peu vaccinée. Mais c'est toujours difficile de calquer un modèle. Je veux dire, c'est pas la même population, c'est pas la même moyenne d'âge qui est touchée. Mais voilà, soyons prudents, mais on a la chance, entre guillemets, d'être un petit peu en retard derrière l'Angleterre, l'Afrique du Sud. Donc on va voir ce qui se passe, effectivement.
Alors justement, que disent les dernières études concernant le variant Omicron ? Il y a deux études importantes qui sont publiées, enfin publiées non, dont on connaît les résultats, parce qu'elles ne sont pas encore publiées.
Oui, revue par les pairs.
Par revue par les pairs, une étude écossaise et une étude anglaise. Que disent-elles ?
Alors l'étude écossaise est intéressante, mais il y a peu de malades. Mmh. Je rappellerai quelque chose que d'ailleurs Olivier Véran a dit à ce même micro.
Oui.
C'est que pendant qu'on dit que l'épidémie écossaise est importante, il y a aussi 30% des soignants en Écosse qui sont contaminés.
Oui.
Donc il ne faut pas perdre de vue ce qu'on va sûrement discuter.
Oui, on va en parler.
C'est l'épidémie d'absentéisme qui est probablement une des problématiques nouvelles de cette vague-là. Mais pour l'étude de l'Imperial College de Londres, qui est plutôt bien faite, parce que le but n'est pas de comparer le taux d'hospitalisation, c'est de comparer le taux d'hospitalisation pondéré sur le fait que les gens sont vaccinés, quelle est la tranche d'âge. Parce qu'au Danemark, les premiers contaminés, c'était les 20-35 ans. Et c'est par définition pas eux qui vont le plus en réanimation. Bon. Mais quand on pondère sur ces facteurs-là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une diminution d'un facteur 2, 3 du risque d'hospitalisation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
C'est-à-dire que lorsqu'on est contaminé par Omicron,
on a
moins de risque de se retrouver à l'hôpital. Quoi. Alors, soyons clairs.
Voilà, il faut bien sûr, et évidemment, a fortiori si vous êtes vacciné, puisque vous avez l'effet de la vaccination et l'effet d'Omicron.
Oui, pourquoi ? Parce que Omicron touche les plus jeunes ? Une population plus jeune.
Mais c'est souvent dans les débuts des vagues comme ça que, évidemment, c'est les gens qui ont le plus d'interactions sociales qui vont attraper le virus et après ça diffuse dans le reste de la société.
Oui, aujourd'hui, les 20-29 ans, en Île-de-France par exemple, sont les plus touchés.
Les plus touchés, avec des incidences très élevées, qu'on rapprochera des incidences très élevées sur les petits.
Alors, je vais revenir sur la vaccination, mais je voudrais parler du risque de janvier, qui est le risque majeur, l'économie à l'arrêt. Pas que l'économie, mais les hôpitaux qui risquent l'arrêt. Les écoles, la police, la sécurité, en fait, tous les secteurs qui risquent d'être touchés. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un taux d'absentéisme extrêmement fort. Alors
ça, c'est un enjeu majeur de la rentrée.
C'est l'enjeu majeur.
Qui concerne, prenons deux exemples, l'école et l'hôpital.
Oui.
Mais bon, je connais évidemment mieux l'hôpital. C'est clair que si vous exfiltrez tous les cas positifs. Moi, dans mon propre service, j'ai déjà 4 cas d'Omicron. À l'échelle d'un service, c'est énorme. Et évidemment, et vous avez vu les règles d'éviction qui vont jusqu'à, en trop, de 7 à 17 jours. C'est un peu compliqué,
oui.
Mais de 7 à 17 jours. Si vous mettez en éviction dans le système scolaire, dans la police, dans les hôpitaux, c'est pas que l'économie va être en arrêt, c'est tout simplement que les prestations vont être en arrêt. Et l'hôpital, on est extrêmement préoccupé pour ça. Extrêmement préoccupé.
Ah ben ça, j'imagine, Gilles Pialou. Mais justement, le gouvernement est en train de réfléchir
à la non-éviction.
Voilà, aux mesures à prendre. C'est-à-dire que si je suis touché par Omicron, que je ne suis pas, j'ai pas de symptômes particuliers, je dois pouvoir venir travailler.
Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand vous avez un travail qui vous permet, que vous n'avez pas de contact avec le public, que vous,
oui.
vous pouvez vous isoler dans un bureau, que vous pouvez évidemment télétravailler. Vous avez cité des pays quand même où le télétravail est redevenu obligatoire. Donc en France,
oui.
on est plutôt mesuré là-dessus. Mais à l'hôpital, c'est très clair. Il va y avoir une discussion au plus haut niveau de l'État pour savoir si effectivement on laisse rentrer, comme vous dites, les gens qui sont contaminés, asymptomatiques, vaccinés.
C'est-à-dire que des soignants infectés, vaccinés pourront travailler à l'hôpital, quoi.
Mais voilà, est-ce que la population va accepter, par exemple, de se faire soigner ? Mais on sait les règles de prévention, donc je dirais que là-dessus, on va pouvoir lâcher. Mais ça ne sera pas vrai dans toutes les corporations. Donc, et puis, vous avez aussi l'école. Et l'école, franchement, c'est la partie la plus ombragée, je veux dire, du système. On le sait depuis le début, avec cette obsession de ne pas vouloir fermer, avec ce non-dépistage.
Mais c'est une obsession qu'on peut comprendre, Gilles Pialou, non ?
Mais pour
préserver l'enseignement, l'éducation.
Mais j'ai déjà dit à ce micro qu'il y a des études et elles ne sont pas entendues, ces études, notamment de l'INSERM de Victoria Colizza, qui vous montre dans des modélisations que quand vous dépistez les enfants deux fois par semaine, comme l'a fait notamment le Danemark et l'Autriche, quand vous dépistez les enfants de manière régulière, dès que vous les dépistez positifs, vous les sortez, vous fermez moins de classes que ce qui se passe actuellement.
C'est un peu ce qui est fait là, non ? C'est un peu ce qui est fait, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas la classe quand il y a un cas positif aujourd'hui.
Oui, on est passé à 3 pour le primaire.
Oui.
D'accord, mais la question n'est pas là. La question, c'est d'avoir une politique de dépistage qui soit audacieuse, régulière.
Donc il faut accélérer, augmenter la politique de dépistage à l'école.
Évidemment,
ça, c'est indispensable.
Parce que de toute façon, moi, j'ai bien vu, je me suis retrouvé avec deux enfants en éviction en même temps.
Oui.
Parce que de toute façon, les chefs d'établissement, quand ils ont 7 cas dans une classe, ils ferment.
Mais
ils ne suivent pas le dogme.
Est-ce qu'il faut retarder le retour à l'école ?
Je pense que ça aurait été une sage décision, mais c'est vrai qu'une semaine, probablement, qu'avec Omicron, c'est un peu court. Donc après, on se heurte à la faisabilité et à l'acceptabilité de la mesure. Mais oui, ça fait partie des mesures qui auraient été souhaitables.
Qu'on aurait pu prendre.
Mais je vais
le temps. Le temps, effectivement, de changer la politique de sanitaire à l'école pour avoir un plan qui soit adapté à Omicron.
Gilles Pialoux, je vais pousser le raisonnement.
Un dernier mot. Je veux quand même, parce que j'ai dit beaucoup de mal ici la dernière fois de la communication de la Société française de pédiatrie, et aujourd'hui la Société française de pédiatrie a fait ce qu'on peut appeler dans un rectificatif, en expliquant que la vaccination avait un bénéfice individuel pour les enfants et pas seulement
les 50 ans.
Voilà, qu'il fallait accompagner cette être pédagogique.
Vous êtes favorable, vous, à la vaccination
évidemment,
des 50 ans?
Évidemment, parce que bénéfice individuel et parce que bénéfice collectif. Mais on a tellement dit tout et son contraire sur les enfants qu'il va falloir énormément. On a pris en otage, finalement, la société a pris en otage, les politiques, les experts ont pris en otage la question des enfants. La question des enfants, elle se réduit pas au port du masque et à la fermeture des écoles. Je vous donner qu'un seul chiffre qui est assez ancien. Il y a au début de la première vague, les Anglais de l'Imperial College aussi ont fait une ensemble d'études pour voir quelles étaient les peurs des enfants. Eh ben, on en a dont on parle tout le temps. Mais 2/3 des enfants de 5 à 10 ans ont peur d'être contaminés. Et 25% ont peur de contaminer l'autre. C'est quelque chose qui ne rentre jamais en ligne de compte dans les décisions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sortir l'enfant et la vaccination va mettre l'enfant dans un processus actif aussi. Il va arrêter d'être passif dans cette histoire-là et éventuellement stigmatiser. Donc je pense qu'évidemment, je suis pour. Mais je pense aussi que la question de la santé des enfants dépasse clairement le problème de l'éducation nationale.
Donc vous êtes pour la vaccination, même bien sûr, malgré toutes les réticences.
Ouais, la réticence des parents, mais attendez,
les parents, que disent les parents?
30%.
On n'a pas de recul avec le vaccin, on ne sait pas quel effet ça peut avoir à long terme sur la santé des enfants.
On va leur expliquer. Gilles Pialoux. Le problème, c'est que la parole politique ne suffit pas à expliquer sur ça. C'est aux scientifiques d'expliquer pourquoi. Mais on va leur expliquer. On est parti de 30%. Vous vous rappelez l'énorme réussite de la vaccination de la troisième dose en France. Quand vous regardez les sondages en 2020, vous avez vu la montée. C'est extraordinaire, cet engouement pour la vaccination. De où on est parti du vaccino-scepticisme.
C'est vrai.
Ça sera pareil pour les enfants. Les gens vont le comprendre, surtout avec Omicron qui circule très vite. Et évidemment, il faudra expliquer point par point.
Il n'y a pas de risque.
Le recul. Donnez-moi un seul vaccin au monde dont on s'en est aperçu très tardivement qu'il avait un effet secondaire. Aucun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous avez 7 millions...
Mais quand on parle de myocardite ou de...
Mais c'est des effets à court terme, ça. C'est des effets à très court terme. C'est des choses qui se
passent. Ça existe.
Mais le rapport bénéfice-risque est complètement à l'avantage du vaccin.
Bien.
Et 25 enfants, ou je ne sais plus, le chiffre a été dit à ce moment-là. 25 enfants en réanimation, c'est 25 enfants de trop.
La vaccination de 5-11 ans, donc indispensable, on est bien d'accord. Mais je voudrais revenir sur le risque de paralysie du pays au mois de janvier. Je vais pousser le raisonnement jusqu'au bout. Avec un variant beaucoup moins dangereux, beaucoup plus transmissible, mais beaucoup moins dangereux. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser finalement le virus circuler? Le virus circuler le plus rapidement possible pour donner une immunité collective. Je vous pose franchement la question.
Franchement, moi, c'est quelque chose que je mets dans les fake news. Pourquoi vous prenez pas mal.
Je vous pose la question.
C'est un mythe, l'immunité naturelle. C'est un mythe.
Oui.
Pourquoi
c'est un mythe.
Je parle même pas d'Omicron, parce qu'on ne connaît pas bien l'immunité naturelle d'Omicron, par définition, parce qu'on n'a pas assez de recul. On va la connaître. Mais je vous parle de Delta. Pour avoir une immunité collective, il faudrait, surtout avec Omicron, il faudrait que 95% des gens soient infectés. Qui va accepter? Alors après, c'est des choix de société, mais qui va accepter que 95% des gens aient une probabilité, alors que ça soit 1% ou 0,5% de décès, de passage en réanimation et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et en plus, l'immunité induite par un virus, par exemple le virus alpha ou bêta, n'est pas forcément efficace pour celui qui vient d'après. Et on sait qu'Omicron ne bénéficie pas... Moi, j'ai par exemple des soignants qui ont eu 2 injections de Covid. Oui. Parce qu'ils ont eu le Covid avec une mauvaise immunité croisée par rapport à Omicron.
D'accord.
Donc, l'immunité naturelle, il faut l'oublier.
Il faut l'oublier. Bon, il ne faut pas oublier la dose de rappel, qui est indispensable.
C'est la ligne Maginot. La ligne Maginot,
c'est la dose de rappel.
C'est la troisième dose.
C'est le rappel. Les non-vaccinés,
Et il faut aller chercher, ça a changé maintenant les gens qu'il faut aller chercher. Ce qu'il faut aller chercher, c'est les 2 millions de plus de 65 ans qui sont non vaccinés, oui. Ils sont prioritaires. C'est le million de patients qui ont des comorbidités, je pense notamment oui. aux obèses, qui ne sont oui. pas vaccinés non plus. Oui. Et il faut aller chercher les plus de 65 ans, qui ont les 2 millions de plus de 65 ans qui n'ont pas la troisième dose. Et tout va se faire sur cette troisième
Alors,
dose.
Vous avez
c'est
regardé...
pas moi qui ai décidé, hein, c'est le virus oui. qui décide.
Dans votre hôpital, tenons, vous avez rencontré des non vaccinés hospitalisés.
On ne rencontre pas, on en rencontre.
Vous êtes allé les voir.
Service avec.
Vous remplissez votre service avec les non-vaccinés?
Oui, c'est, moi j'ai 13 lits, je suis pas le seul à faire du Covid dans mon hôpital, mais moi j'ai 13 lits, c'est la moitié de mon service, et donc j'ai sur 13, j'ai 11 non-vaccinés.
11 non-vaccinés oui, sur 13
près,
Et vous les avez rencontrés aussi, que vous ont-ils dit ces non-vaccinés?
Alors ça c'est mon obsession, j'embête les internes et les externes, alors évidemment c'est déclaratif. Mais j'ai fait j'ai fait la contre-visite. En gros... sur 11, il y en a 6 qui n'ont pas eu le temps, pas l'occasion, qui attendaient de voir et qui se retrouvent avec 10 litres d'oxygène, parfois en réanimation. Il y a très peu d'antivax. C'est ça qui est incroyable.
Sur 11, on avait quoi?
Je voudrais qu'ils disent on soigne tout le monde pareil. Il faut aussi arrêter avec les faux messages. On soigne tout le monde pareil, y compris sauf qu'ils nous pourrissent. Parce qu'il y a beaucoup de violence à l'hôpital de la part de justement des non-vaccinés et de leurs familles. C'est une dimension nouvelle de l'hôpital qui nous inquiète, même si on est là pour faire face. Et puis, il y a des gens qu'on n'est pas allé chercher. Quelqu'un qui vit dans un foyer, une personne âgée qui a des troubles cognitifs. Donc, tous ces gens-là, finalement, c'est un élément assez optimiste.
Sur 11,
les récupérer.
Sur 11 hospitalisés, vous avez 6 qui n'ont pas eu le temps ou n'y ont pas pensé.
Et 4.
2 et qui sont vraiment contre. Voilà. Et 3 qu'on n'est pas allé chercher. Quoi.
Et le reste, c'est pas d'intérêt. En gros, pas d'intérêt. Notamment, je vais en faire une caricature. Quelqu'un de tout à fait cortiqué, dans un milieu bien développé, qui m'explique qu'il travaille dans un cabinet de groupe où les autres sont vaccinés et que donc ça suffit pour le protéger.
Non.
Si. J'en ai eu plusieurs qui m'ont dit ça. Donc je pense que ces gens-là, on peut aller les chercher.
Bon. Les tests. Je termine avec
en plus
les
de
tests.
Tous ceux qui viennent spontanément.
Alors, les tests. PCR, antigénique, salivaire, autotest, ils sont tous valables? Franchement.
Ils n'ont pas tous la même sensibilité.
Oui.
C'est la sensibilité qui compte. C'est de ne pas
oui.
laisser passer une personne qui est positive, c'est ça.
Oui.
C'est-à-dire de la rendre négative alors qu'elle est positive. Les autotests, qui sont très pratiques, évidemment, c'est pas un chèque en blanc de non-contamination.
Mais pour ce soir, par exemple, c'est bien d'avoir...
Évidemment, il faut le mettre dans le sapin.
Oui.
Je l'ai déjà dit.
Le mettre l'autotest ouais. dans le sapin, oui.
Je vais vous faire une anecdote idée. Parce qu'on va se détendre, c'est le jour de Noël.
Allez-y.
C'est une blague, c'est pas une blague chez moi. Moi j'ai fait autre chose avant le Covid.
Oui.
J'ai fait notamment la prévention de la lutte contre le sida. Je vous raconte un truc perso. Mais... Et pendant des années, je mettais des préservatifs dans le sapin. C'est-à-dire que tous mes enfants ont été habitués à voir dans le sapin. C'était une blague, c'était un objet familier. Puisque quand on fait des campagnes de prévention, j'en avais par dizaines. Et j'en mettais dans le sapin ou dans les boules, etc. Quand je dis on en met dans le sapin, c'est une formule pour dire qu'il faut que ça encadre. Que ça encadre la semaine des vacances et que les gens ne le fassent pas que juste avant de rentrer pour le réveillon. Qu'ils le fassent évidemment éventuellement le lendemain, qu'ils le oui. refassent quand ils se revoient.
Oui.
Et c'est, bien sûr que c'est pas 100% de sécurité, mais c'est quand même, ça augmente considérablement. Mais attention, là en ce moment, il y a la vaccination, les Français ont bien compris, ils font la queue, etc. Il y a les tests, ils font la queue. Mais il y a deux sujets qu'il faut pas lâcher, et le président Allez. De la République l'a dit dans son TikTok, là. C'est les solutions hydrauliques, le lavage des mains, c'est catastrophique.
Ouais.
73% de baisse entre août 2020 et 2021 de solutions hydroalcooliques. On a perdu le fil.
On a perdu l'habitude.
Du lavage, et il y a même une baisse des ventes de masques. Donc, on ne s'en sortira pas si on met tout sur le vaccin ou tout sur le vaccin et le dépistage. Et ça, c'est mondial.
Ouais. Et je voudrais terminer avec la grippe. Franchement, la grippe.
Je suis vacciné.
Vous êtes vacciné, moi aussi. Ça circule. Le virus circule.
Cette année, tout circule. C'est pas
oui.
comme l'année dernière. Oui, ça circule. Ça circule déjà chez les enfants. Ça circule
et
déjà
elle
chez
est
les
mauvaise.
Adultes.
Elle est mauvaise cette année.
On n'a pas assez de données de Santé
assez
publique
de
France
encore.
pour dire si elle est agressive. Mais il y a un vrai problème cette année, c'est que quand vous allez avoir 38 ou 42 fièvres, que ce soit avec votre enfant ou avec un adulte, ça va être compliqué de savoir, comme ça, à vue de nez, si c'est le Covid et tout ça. Donc, déjà,
oui.
éliminer le problème de la grippe, éliminer la grippe par la vaccination, c'est ça le message.
Et puis, dernier mot sur les traitements contre le Covid. Où est-ce qu'on en est ? J'ai vu que la pilule Pfizer avait été autorisée par les États-Unis, la pilule anti-Covid du laboratoire Merck allemand aussi autorisée. Bientôt en pharmacie, ces pilules ? Et pour qui?
Je crois que le ministre s'est exprimé là-dessus, probablement en janvier, oui. Probablement en ambulatoire, c'est-à-dire chez les malades qui sont en ville. Donc il faudra qu'ils se fassent dépister très rapidement.
Voilà. Parce que c'est plutôt dans les 5 jours. Le malade dépisté qui a le Covid, voilà, prend sa pilule.
C'est décomprimé, donc c'est très facile à prendre. Ça a l'air très efficace. C'est une très bonne nouvelle pour finir l'année, parce que le traitement finalement a été absent de ces deux années de crise, à part les faux traitements. Et ça va participer à la prévention.
Est-ce qu'on peut imaginer, alors j'ai une idée, puisqu'on est à la fin de l'année, est-ce qu'on peut imaginer que, avec ce variant Omicron, qui paraît moins dangereux,
qui ne sera pas affecté, qui n'affecte pas les traitements, c'est très important de le dire. Hein.
Bon. Est-ce qu'on peut imaginer que peu à peu le virus soit de moins en moins méchant?
Alors ça, c'est évidemment, c'est une hypothèse que font tous les virologues, c'est qu'à force de faire, parce que c'est une machine,
à force de muter,
il fait des conneries, comme on dit. C'est-à-dire qu'il peut avoir une mutation qui le rend moins pathogène. Mais là, bon, c'est un peu comme jouer au loto, quoi.
Bon, d'accord. On va jouer au loto quand même, non? merci Gilles Pialoux. Il est 8h53, RMC et BFM TV, et bonne fête à tous.